Bienvenue dans l'étange. Imaginez une immense machine mécanique où chaque engrenage possède son propre frein d'urgence.
C'est une bonne image, ouais.
N'importe qui peut bloquer le système, mais personne ne peut le conduire seul.
Exactement. Et c'est vraiment l'architecture de l'État libanais. Aujourd'hui, on analyse les élections législatives du 15 mai 2022. 128 députés ont été renouvelés dans un pays totalement ravagé. La livre a perdu 90% de sa valeur. Les coupures de courant rythment vraiment chaque journée. Et pourtant, la participation a plafonné à 41%.
Seulement 41%, oui.
Voilà. Donc la question centrale qu'on se pose, c'est ce scrutin représente-t-il une véritable rupture politique ou c'est juste un rituel d'autopersuasion qui valide l'inertie? Moi, je suis persuadé que ces élections marquent une défaite symbolique décisive de l'establishment.
Et de mon côté, je soutiens que cette abstention massive prouve surtout que les électeurs n'ont tout simplement plus les moyens de s'intéresser à la politique. Le vote a validé l'immobilisme. Pour moi, ce scrutin, c'est le triomphe absolu du système institutionnel sur la volonté de changement.
Mais les chiffres officiels montrent quand même une perte de contrôle évidente, non? À l'issue du dépouillement, la majorité chiite et ses alliés s'est vraiment effritée. Ils chutent de 71 à 62 sièges.
C'est vrai, mais...
Et attends, au sein de la communauté chrétienne, la dynamique s'est complètement inversée. Les forces libanaises ont fait une percée spectaculaire. Ils ont ravi au courant patriotique libre de Gebran Bassil son statut de première force. C'est un renversement profond des équilibres maronites et nationaux.
Un renversement sur le papier, peut-être. Mais en réalité, ces basculements de sièges ne pèsent rien face à l'immobilisme de l'Assemblée. Tu parles de renversement, mais regarde la douzaine de députés issus du mouvement de contestation de 2019.
Ils sont entrés au Parlement, justement.
Oui, ils y sont entrés, mais pourquoi ont-ils été immédiatement neutralisés? Parce qu'ils n'étaient unis que par la colère anti-système. C'est un groupe super hétéroclite. T'as des communistes à côté de libéraux de droite. Aucune coordination programmatique n'est possible entre eux pour voter des lois. L'étincelle s'est noyée d'elle-même, quoi.
Je te l'accorde. La capacité de légiférer, ça prend du temps. Mais la symbolique de ces victoires locales, elle brise un mythe d'invincibilité. Enfin, à Beyrouth 2, Ebrahim Menaimné a décroché un siège avec plus de 13 000 voix préférentielles.
Oui, un très beau score.
Il a balayé des professionnels de la politique et dans le sud, qui est le bastion historique du mouvement Amal. Tu sais, l'autre grand pilier chiite avec le Hezbollah. Elias Jaraidi et Firas Hamdan ont arraché des sièges à des figures enracinées depuis des décennies. L'influence de la diaspora était déterminante ici. Je veux dire, 225 000 électeurs de l'étranger ont forcé la campagne à se focaliser sur l'enjeu militaire et le désarmement du Hezbollah. C'est pas rien.
Sauf que tu mets en avant cette pression de la diaspora sur les armes, et pour moi, c'était un écran de fumée. Ça a masqué une campagne totalement déconnectée de l'urgence économique absolue du pays.
Déconnectée, tu trouves ?
Complètement. Surtout, cette focalisation cache un séisme bien plus concret, le retrait politique de Saad Hariri. En abandonnant le courant du futur, il n'a pas laissé place à une transition saine. Il a juste vidé d'un coup le principal réservoir électoral sunnite.
Ce qui a mené à l'abstention.
Exactement. Un résultat mécanique. Une abstention béante à Tripoli et à Beyrouth-Ouest. L'espace laissé vide ne s'est pas démocratisé. Il s'est fragmenté de façon mortifère.
Cette fragmentation sunnite est douloureuse, oui. Mais déconstruire les monopoles traditionnels, ça reste la première étape nécessaire pour briser l'emprise des partis dominants.
Une étape qui s'est surtout fracassée sur la mécanique même de nos institutions. Le système a gagné en refusant de fonctionner. Ce blocage est purement structurel.
Comment ça ?
Par le veto confessionnel et le boycott systématique. Pour élire un président, il faut un quorum des deux tiers. Les partis s'absentent délibérément pour paralyser la machine s'ils n'obtiennent pas leur candidat. Conséquence directe, après mai 2022, Nabi Berri est réélu au perchoir pour un septième mandat, Nadim Mikati échoue à former un gouvernement et en octobre, Michel Aoun quitte la présidence sans successeur.
Laissant le sommet de l'État vacant en affaires courantes.
Voilà, tirer le frein d'urgence a suffi à annuler la volonté populaire.
La paralysie gouvernementale est un fait, je suis bien obligée de te l'accorder. Les freins sont activés de toutes parts. Mais je maintiens que la brèche démocratique a été ouverte le 15 mai. Le système gagne du temps par le blocage, oui, mais il a révélé des failles électorales inédites dans ses fondations.
Donc on arrive à cette fameuse dualité. Tu vois une étincelle indéniable d'alternance locale, et moi j'y vois la victoire écrasante d'une architecture expressément conçue pour la paralysie.
C'est tout à fait ça. Et au milieu de notre désaccord, on fait face à une convergence tragique. D'un côté, le Conseil de sécurité exige un accord rapide avec le FMI pour débloquer un prêt vital.
Ouais.
Et de l'autre,
pendant que les engrenages institutionnels tournent à vide par manque de quorum, les prix des denrées de base continuent d'exploser pour les Libanais.
La machine est à l'arrêt, mais c'est le citoyen qui paie le prix du stationnement, si je puis dire.
Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion fondamentale. Quelles sont les limites réelles d'un bulletin de vote dans un système magistralement conçu pour que l'inertie l'emporte toujours ? L'outil démocratique peut-il redémarrer une machine dont chaque pièce refuse de tourner avec les autres ? La question reste ouverte.